Vous êtes sur RTL. Attends.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal d'Agnès Bonfillon.
Avec toute l'actualité de ce 29 février. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Avant de parler de l'épidémie du coronavirus en France, revenons d'abord sur la cérémonie des Césars qui avait lieu hier soir.
On savait que la 45e édition risquait de connaître quelques tensions avec la polémique autour de Roman Polanski. Eh bien, ça n'a pas loupé. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous avez assisté à la soirée pour RTL, Stéphane, et malgré l'absence du cinéaste et de son équipe, une grosse rupture d'ambiance a eu lieu à la toute fin.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à
Roman Polanski pour J'accuse.
Minuit 15, hier soir, salle Pleyel, Claire Denis et Emmanuel Berco sortent de scène après avoir annoncé le nom de Roman Polanski pour le César du meilleur réalisateur. Coup de massue, malaise, Adèle Haenel quitte la salle en hurlant sa honte, bientôt imitée par des dizaines de personnes. Pire, Florence Foresti ne revient plus devant les caméras et le public. La maîtresse de cérémonie laissant le soin, si l'on peut dire, à Sandrine Kiberlin, présidente de la soirée, de conclure les choses comme elle peut. La photo de famille des lauréats ressemble alors à un cliché déjà jauni, une pose artificielle. La suite sera à l'identique. En partant au dîner du Fouquet's, traditionnel rendez-vous, Fanny Ardant se dit très heureuse pour Roman Polanski. Dominique Besnéard revendique le fait d'avoir voté pour lui. Chez les représentants de la jeune génération, le mot qui revient alors le plus souvent, c'est écœurement.
Et justement, il y aura un avant et un après. On peut véritablement dire ça ce matin, Stéphane ?
Alors, en tous les cas, c'est un bras d'honneur ou une gifle, mais c'est un geste. Le vote des 4700 membres de l'Académie, parce que c'est eux qui ont voté pour Roman Polanski au final, aura bien entendu des conséquences. Ceux qui pensaient que cette cérémonie serait enfin l'occasion de retrouvailles, un moment d'apaisement après des semaines d'affaires et de scandales, ceux-là se sont trompés. Ceux qui ont voté majoritairement pour Roman Polanski ont voulu dire qu'ils gardaient dès la main, que les affaires n'y changeaient rien. Il va falloir que l'on se réconcilie, qu'on réfléchisse, qu'on avance, a déclaré Nicolas Bedos. La nouvelle équipe qui prendra les commandes des Césars d'ici l'été aura décidément un énorme chantier sur la table.
Le monsieur cinéma de RTL, Stéphane Boutsock, merci infiniment Stéphane. Et signe que les avis sont partagés, vous le disiez. Écoutons la réaction de Fanny Ardant qui a été récompensée pour son second rôle dans La Belle Époque de Nicolas Bedos.
Mais moi, je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine. Je n'aime pas la condamnation. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté.
Le César du meilleur film a été décerné aux Misérables, de la Gilly. Et Anaïs de Mousty a été élue meilleure actrice et Roche Dizem meilleur acteur par l'Académie.
Évidemment, palmarès du 45e édition donc des Césars sur notre site rtl.fr. On remercie Stéphane Boutsock qui s'est couché à 4h du matin pour suivre l'événement, bien sûr, et qui est déjà en direct avec nous ce matin. Le reste de l'actualité, Agnès, on se dit bonjour, mais on ne se serre pas la main.
Et oui, cela fait partie des conseils donnés par le ministre de la Santé pour tenter de limiter la propagation du coronavirus avec 19 nouveaux cas en 24 heures. Ce sont 57 personnes au total qui sont contaminées sur le territoire. D'ailleurs, la France déclenche le stade 2 sur 3. Hier soir, le ministre Olivier Véran a demandé à la population d'adopter de nouveaux réflexes.
En situation épidémique, vous protéger, c'est aussi protéger les autres. Et ce sont les petits gestes qui font une grande protection. Les gestes barrières protègent. Lavez-vous les mains toutes les heures. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades et que le port du masque ne vous a pas été recommandé. Porter un masque en dehors de ces situations ne vous protège pas, car l'essentiel des contaminations se font par les mains. Je recommande désormais d'éviter la poignée de main. Je ne dis pas qu'il faut prescrire la politesse, bien sûr, j'invite juste à l'exprimer différemment.
Ce matin, un conseil de défense a lieu à l'Élysée. Il sera suivi d'un conseil des ministres exceptionnels pour faire le point sur la situation qui s'étend donc à différentes régions. Ville, Nice, Montpellier, Annecy, à chaque fois les autorités recherchent le fameux patient zéro, celui qui a transmis le virus après un séjour par exemple en Italie ou en Chine. Et ce patient zéro, il n'est toujours pas identifié dans l'Oise, alors que dans ce département, 18 personnes sont infectées et un professeur de 60 ans, on le rappelle, est mort mort cette semaine. Il habitait dans le village de la Vamoise, où vous vous êtes rendu pour RTL, Mourad Djabari. Il y a forcément beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur place.
Oui, les rues sont désertées par les habitants sans qu'on leur demande. Ils se sont, pour la plupart, cloîtrés chez eux. Un village aux confins de l'Oise, de 900 âmes.
On voit plus grand monde, hein, je vais vous dire, maintenant on voit plus grand monde.
Où certains, comme Pascal, sont persuadés que le virus se balade dans la commune.
Ça s'est pas arrêté là, hein. C'est comme Tchernobyl. Donc c'est sûr, ça va venir, hein. De toute façon c'est une question de jour. Moi je sais quand je vais voir mes parents qui sont âgés, je mets mon masque, là j'en reviens, je mets mon masque, je l'ai là dans ma poche, tout ça. Et après on va voir comment ça évolue, quoi. Mais c'est pareil, on comprend pas pourquoi le village n'a pas été confiné ou un truc comme ça, quoi. C'est inquiétant.
En début de semaine, c'est l'un de leur voisin, professeur de 60 ans, qui est mort du virus. Enseignant au collège et conseiller municipal, il n'avait jamais quitté l'Oise avant de tomber malade. L'enquête continue, mais Maxime se demande aujourd'hui comment le coronavirus a pu arriver depuis la Chine dans son village. Il était l'élève de ce professeur.
L'année d'avant, oui, je l'avais eu. Et franchement, un professeur, il était super gentil. Moi, j'ai des amis qui étaient avec lui dans sa classe la dernière semaine d'école. Ça fait peur, ça fait réfléchir. On se pose des questions. Bah, je me demande si je suis pas infecté. Je regarde si j'ai pas de fièvre. Franchement, ça fait quand même flipper un peu.
Et la venue du ministre de la Santé dans le village n'a pas calmé la peur de certains habitants, puisqu'ils n'ont pas réussi à lui poser directement des questions. Ils ont été bloqués à l'entrée de la mairie.
Le reportage de Mourad Djabari pour RTL à Vaumoise, dans l'Oise. Situation exceptionnelle et mesures qui vont avec, hein, dans le monde du travail. Le coronavirus est considéré comme cas de force majeure, explique le gouvernement. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il n'y aura pas de pénalité de la part de l'État pour les entreprises en cas de retard de livraison. Les patrons, eux, peuvent, sans l'accord de l'employé, instaurer le télétravail. Et les parents d'enfants confinés, eux, pourront bénéficier d'un arrêt maladie sans jour de carence. En Asie, si en Chine, l'épidémie semble marquer le pas, la propagation du virus s'accélère ailleurs, notamment en Corée du Sud, avec près de 3000 personnes infectées et 16 décès.
Et vous disposez d'un dossier complet sur le virus, évidemment, sur notre site rtl.fr. Je vous donne un rendez-vous demain dimanche, 9h15. Toute l'équipe de Michel Simès sera rien que pour vous, en direct, en studio, avec vos coups de fil, vos interrogations, vos questions, vos doutes sur ce coronavirus. Michel et son équipe, demain dimanche, 9h15, pendant 3 quarts d'heure, ils vont tout vous dire et surtout répondre à vos interrogations. Vous serez demain les bienvenus. Une pause et dans un instant, les nouvelles épreuves de contrôle continuent pour le bac. Mais ça fait toujours polémique. À tout de suite.
RTL Matin 9h09, la suite du journal avec Agnès Bonfillon et Stéphane Carpentier.
Et donc Agnès, les épreuves de contrôle continues instaurées pour la réforme du bac provoquent toujours des protestations.
Cette semaine à Paris et en banlieue parisienne, quelques lycées ont dû une nouvelle fois annuler ces fameuses épreuves. Vous savez, les E3C, hier dans le 20e arrondissement de la capitale, au lycée Maurice Ravel, les jeunes sont sortis beaucoup plus tôt que prévu. Marie Guerrier.
Des élèves s'étaient organisés pour empêcher la tenue des épreuves.
Il fallait trouver quelque chose de discret et qui puisse créer un mouvement de foule pour annuler.
Pas de blocage à l'entrée du lycée Ravel, mais une fois à l'intérieur...
Il y a des élèves qui ont ramené des pétards, etc. On ne peut pas respirer dans les couloirs, il y a des œufs éclatés partout.
Et quelques fumigènes lancés à l'intérieur et à l'extérieur.
Bah, du coup, on nous a tous fait descendre pour notre sécurité.
L'épreuve de langue devait commencer à 14h. À 14h05, tous les élèves sont ressortis. Et ils préviennent pour les E3C programmés lundi.
Ça va être pareil, je pense.
Ça va être pareil, on va faire pareil.
Et s'ils reportent, on fera pareil.
Le proviseur avait envoyé un mail pour prévenir.
Tout élève refusant de composer le vendredi 28 février ou lundi 2 mars se verra attribuer la note de zéro. Moi, ça m'inquiète.
Impossible.
Ça va être n'importe quoi.
Ça serait injuste.
Le rectorat de Paris cherche actuellement des solutions alternatives pour les 4-5 établissements où la situation est bloquée. Des élèves du lycée Arago sont venus voir leurs voisins de Ravel. Eux aussi ont boycotté une fois les E3C, mais ils ont fini par les passer cette semaine.
C'est vrai que ça arrive trop tôt, mais qu'en soi, c'est pas si mal de les passer parce que ça nous apprend à se préparer pour le bac. Donc c'est bien, mais fallait que ce soit mieux préparé.
Les lycéens ont la sensation d'être les cobayes d'une réforme que le ministère s'est engagé à ajuster.
Le reportage de Marie Guerrier pour RTL. Voitures, scooters, une trentaine de véhicules brûlés hier près de la gare de Lyon. À Paris, donc, en marge du concert d'un artiste congolais à Bercy, une manifestation était organisée par des opposants au régime actuel. Des opposants qui reprochent à l'artiste d'être proche du pouvoir en place. 71 interpellations ont eu lieu.
Et puis Philippe Candeloro, lui, ne sera pas le futur président de la Fédération des sports de glace.
Après la démission de Didier Gayaguet suite aux révélations d'agressions sexuelles et de viols de la part de certains entraîneurs, un grand ménage est fait dans la structure. Pour l'heure, 5 candidats sont déclarés, dont l'ancienne championne de patinage Nathalie Péchala. Philippe Candeloro aurait aimé être le 6e, mais son emploi du temps ne le lui permet pas. On sent bien la déception dans sa voix. Écoutez, c'est un document RTL.
Malheureusement, bah, le 14 mars, le jour des élections, je serai sur la glace à Marseille. Donc pour moi, c'est quasiment impossible de faire une présentation en vidéo et pas être présent physiquement pour pouvoir remporter sereinement des élections équitables. Je me suis beaucoup posé la question parce que on n'avait pas prévu la démission de Didier Gaguet aussi rapidement, aussi soudainement. Donc je crois qu'il n'y a aucun des candidats aujourd'hui qui est prêt. Donc il y a des choses à mettre en place, ça c'est sûr. Mais oui, c'est un petit peu dommage que ce soit tombé aussi rapidement. C'était plus un dossier, la présidence de la fédération, que j'aurais pu mettre en place après mes 50 ans.
Philippe Candelro avec Laurent Marsic, un document RTL. En foot, ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Après le coup de mou face à Nantes la semaine dernière, l'OM remet les points sur les i grâce à un triplé de Dario Benedetto qui a permis hier aux Marseillais de se réinstaller confortablement sur la deuxième marche du podium. Victoire 3-2 à Nîmes. Les rencontres du jour, PSG Dijon à 17h30, puis à partir de 20h, Amiens reçoit Metz, Brest, Angers, Monaco, Reims, Montpellier, Strasbourg et Rennes se déplacent à Toulouse. Des matchs à suivre bien évidemment en direct sur notre antenne dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19h30 avec Christian Olivier et Philippe Sanfourche aux commandes.
Et puis Agnès, ça y est, hein, Patrick quitte la scène.
Oh, enfin, plutôt les rails. Même si lui aussi est une vraie vedette, nous parlons du premier TGV. Après 40 ans de service, celui qui porte le prénom Patrick, effectivement, va achever sa tournée d'adieu en étant présenté au grand public en gare de Lyon ce week-end. Lyon-Perrache le week-end prochain. On mesure l'attachement des Français, plus particulièrement des employés SNCF, vis-à-vis de cette rame si particulière, Arnaud Touche.
Avec sa couleur orange, Patrick ne laisse pas indifférent et rappelle bien souvent des souvenirs alors qu'il prend désormais sa retraite.
Patrick, aujourd'hui, une rame est devenue une personne.
Des milliers de salariés de la SNCF sont déjà venus le saluer jusque dans la cabine.
Elle est quasiment dans son état d'origine. Donc on a ce marron très années 80.
Antoine et ses équipes sont à l'origine de cette tournée, un brin nostalgique.
On ressent énormément de fierté parce que pour un conducteur, conduire le TGV, c'est un aboutissement dans une carrière, c'est un peu notre concorde à nous.
Mais d'ailleurs, pourquoi le tout premier TGV s'appelle-t-il Patrick ? Réponse avec Jean-Claude, un conducteur passionné.
La rame 01, qu'on a appelée Patrick, qui était en fait, pour la petite histoire, un des prénoms des filles d'un des chefs traction de l'époque.
Et pour la SNCF, il était devenu quasi impossible de ne pas ressortir cette rame pour le grand public une dernière fois, comme l'explique Florence Brachet-Champsor, directrice du patrimoine.
C'est vrai qu'on l'a appelée tournée d'adieu, mais en fait, c'est l'aventure de la grande vitesse. Vous verrez aussi dans l'exposition les rames qui vont rouler à partir de 2024. C'est vraiment une histoire d'innovation successive.
Et même en 2020, Patrick séduit toujours autant. Les réservations pour l'exposition dans la rame sont déjà complètes pour ce week-end à Paris.
Le reportage d'Arnaud Touche pour RTL, je n'ai le temps de rien ajouter puisque je suis en retard.
Déjà d'une minute au moins, donc enfin bon, une bricole comme d'habitude.
Comme vous exagérez.